autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation. On nous interrogeait sur la diversité humaine. Pourquoi sommes-nous à la fois si semblables et tous différents, individuellement et collectivement? Comment la génétique, la génomique peuvent nous éclairer non seulement sur nos origines et notre histoire démographique, sur les mouvements de population, les migrations et les métissages qui nous constituent, mais aussi sur notre capacité d'adaptation aux changements environnementaux, comme aux maladies infectieuses ou aux agents pathogènes? Comment 20 ans après le premier séquençage du génome humain, l'épigénétique, la manière dont nos gènes s'expriment ou pas selon notre environnement, ouvre un nouveau champ de recherche et d'interrogation sur notre formidable diversité humaine. Voilà ce que nous vous proposons de découvrir avec notre invité, le généticien des populations Luis Quintana Morsi de l'Institut Pasteur, internationalement reconnu pour ses découvertes et ses recherches, qui vient d'être nommé professeur au Collège de France sur la toute nouvelle chaire Évolution humaine et génétique des populations, autour de la question comment mieux comprendre notre diversité humaine. Bienvenue. Bonjour Luis Quintana Morsi.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager vos recherches, vos découvertes et vos interrogations sur l'extraordinaire diversité humaine. Vous êtes généticien des populations, aujourd'hui directeur de recherche au CNRS, professeur à l'Institut Pasteur, où vous dirigez l'unité de génétique évolutive humaine, distingué par de nombreux et de très prestigieux prix scientifiques. Vous venez donc d'être nommé, Luis Quintana Morsi, professeur au Collège de France sur la toute nouvelle chaire Évolution humaine et génétique des populations. Pour votre leçon inaugurale, il y a quelques jours, le 6 février dernier, toujours visible, je le dis en passant pour nos auditeurs sur le net, une histoire génétique, notre diversité, notre évolution, notre adaptation. Vous n'avez pas hésité à convoquer Gauguin ou Rihanna pour illustrer cette formidable diversité du génome humain. C'est quand même votre premier constat fondamental, Luis. Nous sommes tous génétiquement différents, individuellement comme collectivement.
Bien sûr, même à l'exception des jumeaux homozygotes, chacun on a un génome que nous est propre. Donc la différence, souvent connotée négative, c'est juste une partie de la richesse biologique de notre espèce.
Et il y a une différence qui se voit, une différence phénotypique et une différence génétique qui ne se voit pas, mais qui est tout aussi importante, même peut-être plus importante.
Exactement.
Vous-même, vous êtes né à Majorque, vous avez poursuivi vos études à l'université de Barcelone en Espagne, puis à celle de Pavie en Italie, à l'université Pierre et Marie Curie à Paris, sans oublier des stages post-doctoraux en Angleterre, à Oxford ou à Tucson aux États-Unis, avant d'intégrer donc le CNRS, l'Institut Pasteur et le Collège de France. C'est un parcours aussi assez divers, européen, même extra-européen, qui a suivi, devancé parfois aussi, les formidables avancées en génétique, puis en épigénétique, auquel vous avez contribué. C'est un moment où tout a changé.
Oui, oui, parce que surtout, c'est avec l'arrivée des nouvelles techniques de séquençage, et notamment avec le séquençage du génome humain entre 2001 et 2004, ça a complètement révolutionné notre travail, la recherche de la diversité génétique entre individus, entre populations, pour aussi mentionner la grandissime révolution qu'il y a eu dans les dernières 10 ans, que ça a été la capacité de séquencer de l'ADN provenant de fossiles. Ça nous a révélé plein de surprises, comme par exemple le fait que vous et moi, d'origine européenne, on a entre 2 et 3% de notre génome qui provient de Néandertal.
Et oui, c'est ça. Ça nous oblige à revisiter toute notre histoire, celle de nos origines et celle d'aujourd'hui aussi. C'est une histoire, on va le redire, qui est faite de métissage tout le temps,
tout le temps. On est tous des Africains, on a tous de Néandertal. Certains d'entre nous, ils ont aussi des fragments de leur ADN qui viennent de Denisova, un cousin de Néandertal qui habitait en Asie. On continue à se métisser.
Autour de la question, pourquoi une telle diversité humaine, justement, comment faire refaire notre histoire génétique? Je vous propose, Luis Quintana Morsi, de retrouver le professeur Thomas Romer, l'administrateur du Collège de France. C'était lors de la création donc de la nouvelle chaire que vous ont confié les professeurs du Collège en préambule à votre leçon inaugurale. On l'écoute.
Depuis toujours, les hommes se sont intéressés à leurs origines et aussi à l'explication de leurs différences ethniques, culturelles, linguistiques. De nombreux mythes de création postulent un couple humain originel à partir duquel sera née l'humanité, qui ensuite se sera diversifiée. L'observation des différences entre les humains a ensuite souvent provoqué des théories de supériorité et d'infériorité allant jusqu'à la volonté de leur donner une légitimation scientifique en parlant des races. Bien que le concept des races a été déclaré irrécevable sur un plan scientifique, la question des différences demeure. Demeure aussi la grande question des migrations et des adaptations des humains à des changements d'environnement. On observe en effet que l'espèce humaine a changé d'une manière considérable au cours de son histoire et l'on constate qu'elle se caractérise par une grande diversité génétique. Ces questions sur la diversité, l'évolution et la capacité d'adaptation ont conduit les professeurs du Collège de France à créer une chaire génomique humaine et évolution, chaire que va inaugurer ce soir Luis Quintana Murci. Cette chaire sera consacrée à l'enquête sur les facteurs qui contribuent à la diversité du génome humain, les facteurs génomiques, l'histoire démographique et les facteurs culturels des populations. Il s'agira d'identifier les facteurs biologiques qui ont joué un rôle majeur dans cette évolution de l'espèce humaine. Comment les gènes se diversifient au niveau de la nutrition, au niveau de la pigmentation de la peau, ou encore, question d'actualité, l'évolution des systèmes immunitaires et à la résistance aux maladies infectieuses. La chaire que Luis Quintana Murci inaugurera ce soir s'inscrit donc pleinement dans une perspective interdisciplinaire, perspective que le Collège de France tente de promouvoir. Cher Luis, nous sommes très heureux de t'accueillir ce soir.
Sous les applaudissements des professeurs du collège. Donc, vous avez ouvert cette leçon inaugurale, Luis Quintana Murci, avec trois questions essentielles, énormes, fondamentales, auxquelles la génétique, la génomique, l'épigénétique cherchent à répondre. D'où venons-nous? Qui sommes-nous et où allons-nous? Rien que ça. Hein, vous êtes philosophe ou généticien, Luis?
Non, plutôt généticien. D'ailleurs, que généticien. Mais en trouvant ce titre d'un tableau de Gauguin, ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement adapté à ce qu'on recherche et à nos recherches en génétique, que ne sont qu'une partie de ce que l'homme a fait toujours. L'homme s'est toujours intéressé à d'où nous venons et qui nous sommes.
L'homme s'y est toujours intéressé. Aujourd'hui, la génétique lui a fourni des moyens, mais aussi l'épigénétique. Alors, j'aimerais bien qu'on commence cette émission par expliquer justement ces termes. Il y a eu la révolution génétique. On a dit à un moment, tout est génétique, ce qui n'est pas le cas. Hein. On en est complètement revenu. Mmh. Il y a aussi la génomique. Et maintenant, aujourd'hui, il y a l'épigénétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence et l'évolution, justement, de vos recherches?
Oui. Je ne pense pas qu'il y a eu un moment où tout était génétique. Après, les gens, ils ont exagéré. Il y a eu des écoles de pensée qui pensaient d'ailleurs que tout était génétique. Mais là, dans la vraie vie, je ne pense pas qu'il y a eu un seul scientifique sérieux qui pensait que tout était génétique. La génétique, c'est ce qui est transmissible aux générations suivantes, parce que c'est inscrit dans nos gènes, c'est-à-dire c'est inscrit dans la séquence de l'ADN. Les fameuses quatre lettres, c'est ATG. Quand il y a un changement d'une de ces lettres, on appelle ça une mutation, et cette mutation va être transmise aux générations suivantes. Ça, c'est la génétique.
Attendez, je vous arrête, parce que justement, sur la génétique, on a quelques petites questions d'auditeurs, notamment Boubacar à Dakar, au Sénégal, qui dit pourquoi ce code génétique est identique à tous les êtres vivants. Alors, c'est très compliqué, mais est-ce qu'on peut répondre à sa question? Et ce n'est pas identique non plus.
Non. C'est-à-dire, il y a un 0,1% de nos génomes qui est différent entre individus. Si vous prenez deux individus au hasard, quelle que soit son origine ethnique, très important.
Quelle que soit sa couleur de peau.
Exactement. Il n'y a que 0,1% de leurs 3 milliards de bases qui va être différent. Ce qui nous laisse quand même environ 3 millions de différences entre deux individus.
Voilà pour ce qui est pour les différences. Donc la génétique, la génomique.
La génomique, ce n'est qu'une discipline plus large que la génétique, parce qu'elle englobe l'étude du génome dans son ensemble. Mais on parle toujours du génome. Tandis que l'épigénétique, c'est tout changement dans l'expression des gènes qui n'est pas inscrit dans la séquence de l'ADN. Donc, en principe, n'est pas transmissible à la génération suivante.
Et en principe aussi, est lié à notre environnement, à ce que nous faisons de nos gènes, à ce que
Exactement.
Nous faisons des cartes qui nous sont données au départ, pour
Exactement.
Le faire dire simplement.
Exactement, c'est-à-dire, si vous fumez ou vous mangez telle ou telle chose, vous n'allez pas changer votre code génétique. En revanche, vous pouvez fortement altérer vos profils épigénétiques.
C'est-à-dire la manière dont ces gènes vont s'exprimer sous
Exactement.
La forme de maladies ou autres. Et ça n'est pas transmissible, ça n'est pas héréditaire. Et
c'est très controversé.
Et voilà, c'est
Exactement.
Ça. Hein, c'est fait partie
en
des
principe,
questions.
En principe, chez l'homme, les profils épigénétiques purs et durs ne devraient pas être... Il n'y a aucune preuve pour l'instant que ça soit transmissible d'une génération à l'autre.
Donc pas de mémoire épigénétique.
Mais il y a aussi des... Par exemple, dans le monde de l'immunologie, il y a des preuves de plus en plus convaincantes qu'il pourrait avoir une certaine mémoire. Mais déjà, ce n'est pas vraiment ma discipline. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que c'est encore... Sous étude, tout ça.
Donc, énorme champ de recherche que l'épigénétique, qui va permettre peut-être, enfin, qui permet déjà de répondre en partie à cette énorme question, d'où venons-nous ? Donc, on va remonter à nos origines. Vous l'avez dit, on est tous africains, on est tous issus. Ça, c'est une réalité, c'est une certitude. Sans aucun doute.
Ouais.
Et autre chose étonnante que l'on découvre et qu'on découvrira dans vos cours au Collège de France, c'est sur le continent africain qu'il y a la plus grande diversité génétique.
Bien sûr, sur le continent africain, il y a la plus grande diversité génétique, il y a la plus grande diversité phénotypique, c'est-à-dire nos différentes apparences, toute une gradation extrêmement riche en couleurs de peau, pigmentation de la peau, la plus grande diversité culturelle, y compris la linguistique, et il y a une quantité de familles de langues et de sous-familles d'une richesse incroyable. Et aussi, c'est un des continents où il y a la plus grande diversité en termes de mode de vie et de mode de subsistance. Agriculture, pastoralisme, chasseurs-cueilleurs, etc.
Donc c'est vraiment le continent le plus biodivers de la planète. C'est le continent dont nous sommes tous venus. Vous avez aussi mis au point des méthodes pour identifier les différentes sorties d'Afrique, la dernière sortie d'Afrique notamment. Autour de la question pourquoi et comment refaire notre histoire génétique, on va remonter aux origines de notre humanité avec une question pour le généticien des populations, Pardon. L'épigénéticien que vous êtes, Luis Quintana Morsi. Question soulevée par le professeur d'anthropobiologie Éric Crubezi. Il est médecin archéologue et spécialiste des rites funéraires. Écoutez, c'est pour vous et pour aller encore plus loin dans nos origines.
On a l'impression actuellement que l'histoire génomique de notre espèce, en ce qui concerne les 10 000 dernières années, elle est quasiment bouclée. Parce que, bon, à part quelques petites populations où il y avait une découverte extraordinaire d'un sujet en Amérique ou autre, mais en tout cas sur les sujets qu'on a actuellement, on ne voit pas trop comment on pourrait aller beaucoup plus loin. En tout cas, les méthodes, on les a, et puis, si vous voulez, ce n'est plus que du volume. Tandis que l'épigénomique, tout reste à faire, bien sûr, tout reste à faire. C'est-à-dire comment ces populations ont évolué, et face aux contraintes environnementales, comment elles ont réagi. Ça, c'est de l'épigénomique. Et là, non seulement tout reste à faire, mais même les techniques, et Luis Quintana Morsi est un spécialiste de ces techniques d'épigénomique, même les techniques restent à préciser sur l'ancien. Donc en quoi pense-t-il que ce qu'on appelle les études sur l'épigénome vont révolutionner l'étude des populations du passé ? Est-ce qu'il peut nous en dire deux mots ?
En quoi cette étude épigénétique pourrait révolutionner ce qu'on a déjà découvert et ce qu'on va continuer à découvrir sur nos ancêtres ?
Ils vont être extrêmement complémentaires aux études génétiques pour plusieurs raisons. Les études génétiques nous donnent une idée relativement précise sur l'histoire démographique des populations, les changements de taille au cours du temps des générations, mais aussi de l'histoire adaptative des populations, c'est-à-dire comment, au cours du temps, les populations se sont adaptées génétiquement. Et là, j'insiste beaucoup, comment les populations se sont adaptées génétiquement, c'est-à-dire une mutation, un moment donné est arrivé et cette mutation a permis à telle population de mieux résister au paludisme. Cette mutation sera montée en fréquence dans une population pour protéger la population contre le paludisme. Ça, c'est de l'adaptation génétique. Or, l'homme a d'autres formes de réagir à l'environnement. Et ça, c'est ce qui faisait référence Eric Rubesi. Et c'est on a une réponse épigénétique. Il y a un changement environnemental, il y a une façon beaucoup plus rapide que la génétique et beaucoup plus flexible que la génétique, et c'est l'épigénétique. On peut réagir à l'environnement en changeant presque d'une façon lamarckienne nos profils épigénétiques. L'inconvénient, en revanche, de l'adaptation, je ne dirais pas, mais de cette réaction épigénétique, c'est qu'elle n'est pas pérenne. J'aime beaucoup...
Oui, donnez-nous un exemple, si vous pouvez, Louis Coutelamorcy.
Oui, il peut y avoir, par exemple, une adaptation de nos gènes au froid. Par exemple, il fait froid, c'est un exemple un peu hypothétique.
Oui, oui.
Il fait froid, nos gènes vont avoir une réponse épigénétique, c'est-à-dire pas de changement de la séquence de l'ADN, pour faire qu'il y a plus de production d'énergie, plus de production de chaleur. Mais cette adaptation, entre guillemets, au froid, on ne va pas la transmettre à nos enfants.
À la génération suivante.
Parce qu'elle n'est pas inscrite dans nos ADN. Moi, j'aime beaucoup dire, et là, excusez-moi pour faire presque des parallèles politiques, mais j'aime beaucoup dire que la génétique est de droite et l'épigénétique est de gauche.
Oui.
Parce que la génétique n'est pas flexible du tout. Mais elle peut faire des choses qui restent un peu pérennes. Tandis, et donc, plus ou moins, évidemment, c'est une caricature, c'est quelque chose un peu de droite. Mais l'épigénétique est beaucoup plus de gauche, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus flexible, beaucoup plus rapide. Mais parfois, ce n'est pas pérenne dans les...
L'inné et l'acquis, quelque part, on peut un peu dire
exactement.
Ça. Et on est finalement 100% inné, 100% acquis, 100%...
Non, quelque part, la vie est un peu entre les deux.
La vie est entre les deux,
et
c'est
oui.
Ça. Et oui, bien sûr. Puisqu'on est ce qu'on a hérité. Ce dont on a hérité, pour le meilleur comme pour le pire.
Et ce qu'on vit.
Et ce qu'on vit. Et tout ce qu'on vit nous transforme.
Une grande partie de ce qu'on vit, nous transforme, oui.
Vous avez notamment démontré comment, par exemple, le passage d'un habitat forestier à un habitat urbain modifie l'épigénome humain. C'est ça, ce qui est modifiable.
Exactement.
Mais par contre, ça ne se transmet pas à la génération suivante.
En principe, non. On avait montré en Afrique, justement, au Gabon et au Cameroun, que les populations qui ont fait une transition de vivre en forêt à vivre dans des milieux urbains ou ruraux, ça a surtout changé leur épigénome et surtout la partie de notre épigénome qui est impliquée dans les fonctions immunitaires.
Ah, donc ça, c'est pour les questions de résistance aux maladies, aux virus, pour des questions qui nous concernent aujourd'hui. Hein, on y reviendra,
qui nous concernent
évidemment.
Aujourd'hui et bien au-delà des maladies infectieuses, parce que le système immunitaire est aussi impliqué, comme vous savez, dans des maladies qui sont aussi en fléau, comme les maladies auto-immunes, allergiques et inflammatoires.
Et ça, c'est lié à nos modes de vie, à l'environnement. Donc, il y a une question d'adaptation très importante, de comprendre comment... Au cours du temps, les hommes ont pu s'adapter génétiquement ou épigénétiquement. Si je vous suis aussi, génétiquement, c'est beaucoup plus long, une adaptation génétique est beaucoup plus long, c'est sur une autre échelle de temps.
Exactement, c'est exactement ça. Disons qu'on peut s'adapter en deux étapes. Une étape rapide et flexible, que c'est la partie épigénétique, pas pérenne. Et c'est comme une façon de gagner du temps jusqu'à 15 jours. Par hasard, comme toujours, ne l'oublions pas, par hasard...
Oui, il n'y a pas de volonté derrière.
Une mutation génétique va arriver et cette mutation va fixer, va pérenniser la façon d'être adapté à l'environnement.
Et ça, ce sont aussi des questions alors, qui ont tout, ça a toujours... C'est comme ça que l'espèce humaine a avancé, a évolué, s'est développé, a résisté, s'est adapté. Mais c'est des questions qui se posent aujourd'hui de toute urgence avec les questions de changement climatique. Vous étudiez aussi, sur le long terme, la manière dont les populations ont réussi à s'adapter, ou pas d'ailleurs, aux changements climatiques et aux agents pathogènes.
Oui, exactement. Une de nos intérêts majeurs, évidemment, travaillant à la l'Institut Pasteur, donc un temple de la microbiologie et de l'infectiologie, c'est justement ça, comment tout au long de notre histoire, que ce soit quand on était en Afrique jusqu'à il y a 60 000 ans, que quand on est sorti de l'Afrique pour peupler l'Europe, l'Asie, l'Océanie, etc., comment on a dû s'adapter aux pathogènes. Et grâce à l'étude de cette adaptation aux pathogènes et les signatures moléculaires, quelque part, que ces pathogènes ont laissées dans nos génomes d'aujourd'hui, grâce à ça, on peut essayer de distinguer des gènes qui sont essentiels pour notre survie face aux pathogènes par rapport à d'autres gènes qui sont un peu moins importants et qui sont plus ce qu'on appelle en immunologie redondants.
Et quand vous parlez aussi de, nos, de notre génétique, de notre génomique, vous parlez toujours de métissage, hein, on l'a bien dit, nous sommes tous différents. Est-ce que là encore, ces métissages ont été utiles pour nous, nous ont aidés à nous adapter? Enfin, c'est l'un ne va pas sans l'autre.
Absolument. Oui. Oui et oui, et quoi qu'on en dise. Il n'y a aucune idéologie politique dans ce que je dis. Il y a juste une observation scientifique. Le métissage de notre espèce avec d'autres espèces, dont Néandertal, a été bénéfique pour plein de choses, y compris notre survie face aux agents pathogènes et tout en particulier les virus. Et le métissage entre, il ne faut pas aller il y a 40-50 000 ans, simplement le métissage entre nous, et ça c'est quelqu'un de mon laboratoire que vous connaissez aussi, Étienne Patin, a montré formellement que le métissage, par exemple, entre peuples bantous et populations de chasseurs-cueilleurs, pygmées en particulier, a été bénéfique pour mieux survivre à les maladies infectieuses, et ça dans les deux sens. Les Bantous ont pris des pygmées, des allèles qui ont permis aux Bantous de mieux résister à certaines maladies infectieuses, mais aussi les pygmées, et ça on l'a montré il y a très récemment avec, avec François Renan et Franck Prugnol de Montpellier, que les pygmées ont acquis des Bantous la mutation de l'hémoglobine S qui permet de mieux résister au paludisme. Donc, bienvenue le métissage.
Bienvenue le métissage, c'est un généticien des populations qui le dit, et comme quoi la génétique aujourd'hui, c'est quoi? Ça serait presque une antidote au racisme, j'ai envie de dire.
Oui, exactement.
Autour de la question pourquoi une telle diversité humaine, vous avez choisi d'ailleurs un bel exemple de biodiversité humaine avec la chanteuse Rihanna, dont vous avez même montré la photo hein, pour illustrer votre leçon inaugurale devant tous les professeurs du Collège de France. Rien que pour ça, vous nous avez donné envie de l'écouter, Rihanna, en version douce sur RFI. Love in the brain.
Vous écoutez RFI autour de la question.
Just to get close to you, could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. That's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good, and I can't get.
Love in the brain. Rihanna sur RFI, ça fait du bien par où ça passe. Pourquoi ce choix, Louise Quintel-Amorsi?
Ça me transporte, ça me fait rêver, ça me détend, ça me transporte aux Barbades.
C'est ça, hein, originaire des Barbades. Et, voilà. Et d'ailleurs, autour de la question de notre diversité humaine, vous venez d'insister, Louis Quintana-Morsi, sur l'effet du métissage hein, pour nous adapter, résister aux changements et notamment résister aux agents pathogènes et aux maladies. Alors comment justement s'adapter aux maladies émergentes qui sévissent aujourd'hui et puis aux virus qui sévit actuellement? À ce sujet, nouvelle question pour vous, soulevée par notre confrère du mensuel La Recherche, Vincent Bordeaux. On l'écoute.
J'ai vu que le coronavirus avait un ancêtre commun avec le SRAS. Jusqu'où on peut remonter dans la génétique des virus et raconter une histoire génétique de ce type de virus?
Est-ce qu'on peut raconter une histoire génétique de ce type de virus? Ou en tout cas, Louis Quintana-Morsi, est-ce que vous pouvez raconter une histoire génétique de notre humanité en lien avec ces virus?
Oui, sur la première partie de la question, oui, on peut remonter sur l'histoire de ce qu'on appelle la phylogénie des virus, dont je ne suis absolument pas spécialiste, mais à Pasteur, il y a beaucoup de spécialistes, sur cela. Sur comment nous, on peut dire, on peut en revanche, à travers l'étude de nos génomes à nous, les génomes humains, mieux comprendre quels ont été les virus d'une importance majeure épidémiologique au passé. Un exemple, une étude qui a été faite à Stanford sur comment un groupe de gènes qui s'appelle les VIP, d'ailleurs, mais pas VIP par VIP, et ça vient de Virus Interacting Protein, les protéines qui interagissent avec les virus, que ces protéines dans notre génome sont enrichies un héritage néandertal. Et quand ils ont regardé quelles sont celles qui sont plus enrichies en néandertalitude, si je peux dire, sont celles qui reconnaissent les virus à ARN. Ce qui nous permet de dire que quand l'homme a débarqué d'Afrique il y a environ 50 000 ans en Europe, probablement des virus ARN avaient un impact important sur la santé et la survie des individus. Et c'est pour ça qu'on a acquis, via le métissage avec Néandertal, des mutations qui nous ont permis de mieux résister à ces virus ARN.
Donc nous sommes faits au fond de métissage qui, alors c'est vraiment la sélection naturelle, c'est-à-dire que ceux qui ont résisté à certains virus ont pu se reproduire et du coup c'est vraiment un processus d'évolution naturelle, mais nous sommes faits de virus pour le pire, hein, on le voit bien en ce moment aujourd'hui sur la planète, pour le meilleur aussi, hein, c'est eux qui nous constituent, c'est ça, on est métissés à tous les niveaux avec aussi l'influence de tout ce qu'on a croisé.
Oui, exactement, nous ne sommes pas autre chose, je le dis toujours, au risque de me répéter, nous ne sommes pas autre chose que les descendants de ceux qui ont survécu les guerres, les famines, la peste noire, la tuberculose, la grippe espagnole, et quelque part, tout ça est un peu inscrit dans nos gènes. Et ça, c'est la fondation de la génétique des populations. C'est à partir d'aujourd'hui pouvoir retracer le passé, parce que on n'est pas autre chose que le résultat de ce passé.
Voilà qui nous sommes, hein, tenter de répondre à la deuxième question. Qui sommes-nous et où allons-nous, hein, puisqu'il y a toutes ces questions-là. Alors, pour rester sur cette question, qui sommes-nous et comment la génétique et l'épigénétique peut éclairer autrement cette question, nouvelle question et nouvel éclairage d'un autre chercheur d'origine guinéenne, c'est le professeur Abdoulaye Baniré Diallo. Lui, il est directeur du laboratoire de bioinformatique à l'Université du Québec à Montréal, lauréat du Next Einstein Forum, qui récompense les chercheurs panafricains les plus prometteurs du continent et des diasporas. Et il vous interroge tout de suite, Louis Quintana-Morsi.
Pendant longtemps, tout le monde a cru que le bagage de l'hérédité tenait sur la génétique, le génome en soi. Et on se rend rapidement compte que ce n'est pas seulement ça qui est transmis aux générations futures. Et une partie de l'épigénétique des parents est transmis et de plus en plus on se rend compte que même une partie de la flore microbienne est transmise au cours des processus de grossesse aux enfants. Donc pour quelqu'un qui travaille en épigénétique, comment il voit l'intégration de toutes ces données épigénomiques et épigénétiques avec les avancées qui ont déjà été faites au niveau génétique? Parce que est-ce qu'il n'y aurait pas une rupture ou une cassure au terme de raisonnement et d'interprétation des résultats?
Qu'en pensez-vous, Louis Quintana-Morcier? Est-ce qu'on est dans une période de rupture? Vous disiez, par rapport à l'épigénétique, on ne sait pas très bien ce qui se transmet ou pas, est-ce qu'il y a une mémoire génétique ou pas. Est-ce qu'on est à un moment, on a beaucoup cru quand même à la génétique, est-ce qu'on est à un autre moment d'une autre approche? C'est aussi pour ça, j'imagine, que vous avez cette chaire, hein, que le Collège de France a décidé d'ouvrir cette chaire de génomique avec vous.
Bien sûr, je ne crois pas qu'on soit dans un moment de rupture. En revanche, on est dans un moment d'éclairage et on est dans un moment presque des lumières. Parce que quand on analysait ou on étudiait que la contribution génétique à qui nous sommes, la contribution génétique à telle ou telle maladie, oui, dans le meilleur des cas, on trouvait un gène qui plus ou moins augmentait un peu la susceptibilité à développer telle ou telle maladie. Et on avait tout ce qu'on appelait l'héritabilité manquante, c'est-à-dire on ne savait pas. Et ce que la révolution épigénomique nous amène, plus d'autres facteurs intrinsèques, comme l'âge, comme le sexe, comme le microbiote, comme la capacité de séquencer l'ADN des fossiles, tout ça ne fait que compléter. Et oui, on n'est pas dans une période de rupture, mais on est dans les lumières de la science. On a tellement d'informations, les technologies sont avancées tellement vite qu'aujourd'hui, on peut comprendre, par exemple, c'est une des choses qu'on fait dans notre laboratoire, dans le cadre d'un laboratoire d'excellence que je suis un des deux coordinateurs, qui s'appelle Milieu Intérieur, et on essaye de comprendre justement par rapport à l'immunité. Il y a notre réponse immunitaire. Il y a le fait que vous et moi, tout en étant sans en apparence, on peut répondre un peu différemment aux infections. On essaye de comprendre quelle est la contribution génétique, quelle est la contribution épigénétique, dans quelle mesure notre âge et notre sexe vont influencer la façon dont on réagit aussi bien aux infections, mais aussi aux traitements thérapeutiques, et aussi la façon dont la nutrition, le microbiote et plein d'autres facteurs, notre passé vaccinal, notre passé infectieux, ce qu'on a vu au passé ou pas vu, comment tout ça ensemble fait la vraie vie, c'est-à-dire comment tout ça ensemble contribue dans les spécifiques à façonner notre système immunitaire et beaucoup plus généralement comment tous ces facteurs génétiques ou pas, évidemment, ensemble contribuent à faire ce que nous sommes.
Ce que nous sommes, c'est-à-dire aussi tous, vraiment tous différents, parce qu'on se rend compte quand vous en parlez, finalement, même si on a la même, une même base génétique avec peu de différences, comme tout se transforme par rapport à nos interactions, aux virus que nous avons rencontrés, à la nourriture que nous mangeons, à la culture peut-être que nous avons aussi, enfin, tout est lié. Du coup, nous sommes vraiment chacun extrêmement différents. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait une médecine pour chacun, que chacun répondit, enfin, c'est quelque chose qu'on sent, hein, quand oui. On est un être humain, mais est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a peut-être des grands types
Bien sûr. Prenons déjà l'exemple de deux juments homozygotes.
Oui.
Ils ont exactement le même...
Donc homozygotes, ils se ressemblent, ils sont pareils.
Oui, ils ont le même génome. Mm-hmm. En revanche, au cours que la vie passe, leur épigénome va être de plus en plus différent. Mm-hmm. Et ça, c'est pourquoi ils ont mangé différemment. Ils ont eu un autre vécu. Donc, le vécu, l'acquis, c'est aussi important. Mais après, et je reviens à ce que vous avez dit avant, à un moment, on pensait que tout était génétique. Mmh. Attention, parce qu'il y a eu beaucoup de politiques que ça se greffe à ça. Hein. L'inné, l'acquis, je suis de droite, je suis de gauche. Toutes ces choses que je trouve quand même, même si moi, je suis le premier que j'ai fait une analogie. Mais finalement, il ne faut pas idéologiser, je ne sais pas comment dire.
Oui, idéologiser, oui.
La science. Et j'ai oublié, excusez-moi, votre deuxième question.
Ma question, elle était, est-ce qu'on est tous, alors on est tous différents,
ah, oui, hein, bien sûr.
D'après ce qu'on a vécu, mais est-ce qu'on peut quand même
la médecine,
nous regrouper, oui, pour nos résistances immunitaires, par groupe culturel,
oui,
je ne dirais pas ethnique, mais culturel, ou suivant les migrations que nous avons vécues, subies, est-ce qu'on trimballe des choses par groupe, par communauté.
Exactement. C'est-à-dire, la vous avez vu que le terme médecine personnalisée est de moins en moins utilisé. Et on utilise de plus en plus médecine de précision. Parce que la médecine personnalisée donnait la fausse impression qu'on allait adapter la médecine à chaque individu différemment. Tandis qu'on va plus vers des groupes d'individus, dépendant de leur bagage génétique, de leur histoire culturelle, dépendant de ce qu'ils ont vu infectieux, de ce qu'ils mangent, etc. Et pouvoir au moins stratifier la population en groupe et pouvoir adapter le traitement thérapeutique à chacun de ces groupes afin de minimiser au maximum les effets secondaires et augmenter au maximum, optimiser l'efficacité du traitement.
L'efficacité du traitement par rapport à tout ce qui est maladie, parce qu'on est fondamentalement, et c'est ça aussi un des résultats qui ressort de la génétique, on est fondamentalement inégaux. On n'est pas du tout pareil et on est inégaux. Il n'y a pas de hiérarchie. Hein. Le problème, c'est de ne pas faire de hiérarchie, mais on est inégaux face à la maladie, face à notre potentiel génétique au départ, face à la manière dont nous vivons. Il y a l'inégalité qui est de fait.
Oui. L'inégalité, elle est là.
Elle est là, mais en même temps, ça ne veut pas dire pour autant que certains sont mieux et que d'autres sont moins bien, parce qu'on a quand même toujours peur de ça qui revient quand on peut choisir des traitements plus précis par communauté, par manière de vivre. Voilà. Mais dans ces cas-là, il faut aussi faire attention à ne pas hiérarchiser. Il n'y a rien de mieux ou de moins bien.
Non, exactement, parce que les uns, on peut être meilleur, et ce n'est même pas relié au groupe ethnique, ça. Hein.
Ce n'est pas relié au groupe ethnique.
Ce n'est même pas relié au groupe ethnique. Parce que parfois, certains individus répondent mieux à certains traitements et pas les autres. Beaucoup d'Africains sont plus résistants au paludisme et en Europe, on l'est beaucoup moins. Tandis qu'en Europe, on va mieux digérer le lait que beaucoup d'Africains. On va toujours trouver des choses qui marchent mieux ou moins bien. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas une hiérarchie dans ça. Et tout dépend de l'environnement dans lequel on habite.
Oui, il faut bien s'en rappeler parce qu'en fait, quand on est scientifique et généticien comme vous, vous le disiez, on peut être récupéré politiquement, idéologiquement, parce que ce que vous dites, finalement, c'est un peu complexe. On est à la fois tous pareils au départ, on est aussi tous différents, ce qu'on vit nous rend différents. Et puis, il y a des différences qui sont physiologiques, qui sont phénotypiques et qui sont génétiques. Il y a des différences, mais il n'y a pas d'hiérarchie, c'est bien ça. Donc
exactement. Et surtout, je trouve qu'il ne faut pas lisser ces différences, les liens.
Les lisser, c'est-à-dire il faut... c'est ça qui fait notre richesse.
Oui, absolument. Moi, je suis presque un activiste anti-années 80 de certains scientifiques qui disaient qu'il n'y avait pas de différence, ils lissaient tout, en croyant d'une façon quand même un peu infantile, puérile et naïve, qu'avec ça, ils allaient éliminer le racisme.
Oui, au contraire, il faut dire on est différent.
Oui.
Et c'est pour ça qu'on vit d'ailleurs.
Hein,
c'est grâce à ça qu'on vit. On continue de s'interroger sur notre formidable diversité humaine en votre compagnie, Luis Quintana Morsi, à l'écoute de Sia. C'est votre joli choix musical que l'on partage tout de suite sur RFI Eye of the Needle. And I ain't ready. Eye of the Needle, l'australienne Sia sur RFI, en compagnie du généticien des populations Luis Quintana Morsi, qui vient d'être nommé professeur au Collège de France, titulaire de la nouvelle chaire de génomique humaine et évolution. Autour de la question de notre formidable diversité génétique humaine, collectivement mais aussi individuellement, nous sommes tous métissés et on peut désormais en faire l'expérience en commandant sur Internet son test ADN. À faire ou pas, réponse après la pub.
What if you could predict the future?
Et si vous pouviez prédire l'avenir? C'est impossible, mais avec un simple échantillon buccal, vous pouvez obtenir des informations importantes sur votre ADN et sur la manière dont il influence votre santé et celle de toute votre famille. Vous ne pouvez pas prédire l'avenir, mais avec le test ADN MyHeritage, vous vous donnez les moyens et les connaissances pour faire les meilleurs choix. Votre ADN est la recette qui vous rend unique. L'ADN raconte notre histoire, d'où nous venons et joue un rôle essentiel pour savoir où nous allons. En prenant connaissance de toutes ces informations génétiques essentielles à tous les aspects de votre santé, vous pourrez être proactif, décider de faire de meilleurs choix, de changer ou d'adapter votre mode de vie, ce qui enrichira votre existence en réduisant votre risque de développer des maladies. Ce test ADN innovant révélera tout sur vos origines ethniques, vous permettra aussi de découvrir des proches et vous ouvrira de nouvelles dimensions et un nouvel éclairage pour vous maintenir en bonne santé.
C'est simple, efficace. Les tests ADN à visée généalogique sont pour l'instant interdits en France, mais évidemment disponibles comme on le veut sur Internet. Vous en pensez quoi, Luis Quintana Morsi, de ces tests en kit pour savoir ce qui nous fait?
Exact. C'est compliqué, hein, avoir un avis clair sur ça, parce que je me suis contredit, parfois j'ai une tendance à ne pas vouloir contrôler la population et laisser leur faire ce qu'ils veulent. Donc ça me dérange, il y a quelque chose qui me dérange que ça soit interdit en France. Je trouve que c'est un peu un manque d'ouverture. Et quand même, le monde va faire, excusez-moi, que dans quelques années, ça sera plus interdit.
C'est ça, parce que quand c'est disponible, on peut le faire sur Internet, on le commande et puis...
Il y a plein de gens qui l'achètent, même en cadeau d'anniversaire. Sur la partie origine ethnique et généalogie, tout ça, je trouve que c'est un peu la science loisir, pourquoi pas.
Il y a de la science loisir, oui, de savoir qu'on a tant de pourcents. Et en général, c'est des découvertes, c'est assez étonnant.
Oui, c'est plus ou moins exact, plus ou moins, mais bon, dans les grandes lignes, c'est à peu près vrai. Et pourquoi pas laisser faire les gens ça. Après, sur l'histoire de prédisposition aux maladies, c'est beaucoup plus compliqué parce que d'une part, les prédictions de ce qu'on appelle l'odds ratio, c'est-à-dire dans quelle proportion vous augmentez vos chances de développer une hypertension ou un cancer de côlon, c'est encore pas super connu. Donc, sans un contrôle médical, sans une surveillance médicale, un accompagnement médical de tout ça, et en plus ça peut être plus ou moins vrai, ça je le trouve simplement dangereux. Mais dans la globalité, ça me dérange que ça soit interdit.
Ouais. Oui, c'est ça. Au fond, pour la connaissance simplement de qui on est et de voir à quel point on est tous métissés.
La
finalement.
Partie loisir, je la trouve, pourquoi pas.
Est-ce que vous-même...
Et j'ai déjà déclaré, parce qu'évidemment, il y aura quelqu'un qui va penser, ah tiens, il doit être dans une boîte consultant. Voilà. J'ai aucun conflit d'intérêt.
Voilà, aucun conflit d'intérêt avec ça. Et est-ce que vous personnellement, puisque vous êtes généticien des populations, vous avez fait ce test, enfin vous avez fait un test ADN, vous savez quels sont les...
Je ne l'ai pas fait, récemment, avec toutes les techniques génomiques d'aujourd'hui. Je l'avais fait il y a très longtemps, quand on ne travaillait que sur l'ADN mitochondrial, c'est-à-dire nos ancêtres maternels, et sur le chromosome Y, nos ancêtres paternels. Et en gros, mon ADN mitochondrial, c'est-à-dire ma lignée maternelle, est très européen de l'Ouest, est-ce que ce n'est pas une grande surprise en étant d'origine espagnole, tandis que mon chromosome Y, ça avait l'air un peu plus moyen-oriental.
D'accord.
Moyen-Oriental, excusez-moi.
D'accord, ça a amené un peu d'Orient chez Luis Quintana Murci. Comment réagissent les populations, puisque vous avez vraiment pratiqué, fait pratiquer, enfin ce sont des données considérables des sur les populations, des tests génétiques. Comment est-ce que les gens réagissent? Est-ce que vous leur fournissez les données? Comment ça se passe tout ça sur le terrain? Parce que vous, c'est vraiment pour étudier de manière globale et collective notre histoire génétique.
Les histoires génétiques personnelles, on ne les donne pas, évidemment. Nous, ce qu'on raconte, ce qu'on fournit, sont des histoires à l'échelle populationnelle. Nous ne sommes pas des gens de terrain. Vous allez recevoir bientôt, par exemple, Evelyne Heyer.
Evelyne Heyer, généticienne des populations de terrain, oui.
Exactement. Elle fait plus de terrain et ça, c'est un travail en soi. Que ça soit en amont pour obtenir les échantillons, les relations, tisser des bonnes relations avec les communautés, évidemment toute la partie éthique et ça, et aussi toute la partie retour d'information.
C'est ça.
Ça se fait par des vrais spécialistes de terrain, des anthropologues de terrain, chose que nous ne sommes pas. En revanche, on va se lancer un peu maintenant sur ça. On a envie de faire un projet du début à la fin et on se lance sur une étude sur les 5 archipels de la Polynésie française et je suis enchanté de participer dans cette étude, d'être à la genèse de l'étude.
Et pour essayer, alors là en l'occurrence, d'identifier quoi, de comprendre quoi?
Plein de choses. On va essayer de comprendre l'histoire démographique de cet archipel, que n'oublions pas que la Polynésie, pas que la française, je parle la,
Polynésie
en général, c'est la dernière partie du monde qui a été peuplée. Dans la chaîne de peuplement de la planète, c'est la dernière partie. On connaît très peu leur diversité génétique. On veut mieux comprendre aussi la façon dont ils se sont adaptés à l'environnement. Et aussi, on va faire un état de santé général, évidemment, avec les populations locales, avec l'Institut Louis Malardet de Papeete, pour mieux comprendre aussi qui sont les Polynésiens.
Ouais, d'où venons-nous? Alors, d'où viennent les Polynésiens, donc les plus anciens, enfin,
c'est qui
les derniers
un
à
peu
avoir...
l'histoire de Gauguin, encore.
C'est ça, puisque vous aviez... Et puis, en plus, vous avez commencé sur l'Afrique, et puis vous allez boucler avec la Polynésie, donc le plus loin où les hommes ont été sur la Terre, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une espèce d'homme, on le rappelle, sur toute la Terre, c'est la nôtre. Luis Quintana Murci, est-ce qu'on va encore beaucoup évoluer, nous, les êtres humains? J'ai envie de poser cette question, parce qu'on est entouré de machines, d'objets qui nous parlent. Est-ce que notre épigénome va être changé, bouleversé par tous ces outils technologiques, cette intelligence artificielle qui nous entoure?
Des outils technologiques, des vaccins, des antibiotiques, plein de choses altèrent la façon, ou peut altérer en tout cas, la façon dont on va évoluer. Mais certainement, on va continuer à évoluer, toujours.
Et continuer à se mélanger, on l'espère.
On l'espère.
Parce que sinon, on ne vivra pas.
Sinon, c'est la fin de l'espèce, l'appauvrissement de l'espèce. N'oubliez pas les Habsbourg. La dynastie des Habsbourg a été cette éteinte.
Eh oui, donc vive le métissage. C'est d'ailleurs, ce sera d'ailleurs le thème d'un colloque que vous avez organisé sur les conséquences du métissage, à la fois archaïque et tout à fait contemporain. Colloque qui aura lieu donc début juin, le 9 et 10 juin, au Collège de France avec les meilleurs spécialistes internationaux de la question. Merci beaucoup, Luis Quintana Murci, et bonne première saison sur votre nouvelle chaire, pour votre enseignement au Collège de France. Je vous rappelle d'ailleurs, chers amis auditeurs et auditrices et internautes, que les cours, vos cours, Luis Quintana Murci, ainsi que votre leçon inaugurale sont écoutables, visionnables et partageables sur le site du Collège de France. Le lien est sur notre site. Merci, Luis Quintana Murci, d'être venu partager en direct votre savoir, vos découvertes, vos recherches avec nous sur RFI.
Et je rappelle aussi à nos auditeurs, à vos auditeurs, que s'ils veulent venir directement au Collège de France, c'est gratuit pour tout le monde.
Et oui, rappelons-le, gratuit et ouvert à tous. Merci. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur l'appli RFI Pure Radio et sur Spotify. Au plaisir de vous retrouver lundi avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette et Juliette Brault en coulisses. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de votre prochain journal.